pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un scandale qui s'est construit petit à petit. Depuis la Seconde Guerre mondiale et le développement de l'agriculture industrielle, la sélection des semences, qui était le savoir-faire et la richesse des paysans, a été confiée à des entreprises privées. Depuis, la loi s'est durcie, le kit graines plus engrais plus produits phytosanitaires est devenu la norme et le nombre de variétés de fruits, de légumes ou de céréales a drastiquement diminué. Jonathan Attias et Alexandre Lombroso, deux cousins, scandalisés par cette évolution, en ont fait un combat citoyen et un documentaire, Des clics de conscience, sorti dans une centaine de salles en France cette semaine.
C'est pas du vent sur RFI.
On va semer plusieurs graines, 100, mais il y en a peut-être que 50 qui vont germer, et sur les 50, 20 qui vont arriver à maturité, quoi. Hein. Mais ces 20 qui arrivent à maturité vont redonner énormément de graines. Et c'est ce qu'ont fait longtemps les cultivateurs, et maintenant on leur impose le contraire. Hein. Alors, on leur a interdit de produire leurs graines, ça devient marginal.
Il ne faut pas oublier que cette agriculture, elle a été introduite après la Seconde Guerre. Les gaz moutarde recyclés en pesticides, les mécaniques des tanks recyclées dans les tracteurs, etc. C'est une agriculture de mort. On part en permanence en guerre contre les insectes, contre les mauvaises herbes, contre les fongicides. C'est une agriculture de mort.
99% des légumes bio sont soit des F1, hybrides F1, donc non reproductibles, soit des variétés sous obtention, c'est-à-dire protégées par des droits de propriété intellectuelle, dont l'industrie semencière est détentrice.
La vraie révolution, elle est dans les jardins, elle est dans l'autonomie.
Elle est dans la terre.
Elle est dans la terre.
Voilà, je peux semer la graine comme une transmission de message. Voilà, je transmets un message, mais je peux pas être la pluie, je peux pas être le soleil, je peux pas être le vent. Quoi. Inch'Allah.
Inch'Allah, et voilà le décor planté. Bonjour Jonathan Attias et Alexandre Lombroso.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce que nous venons d'écouter est un extrait de votre documentaire Des clics de conscience, sorti donc en salle cette semaine. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous intéresser à ce sujet? Qui commence? Vous regardez, oui. Alexandre.
Ben alors, la semence, en fait, ce qui est hyper intéressant quand on est des citadins et qu'on ne connaît pas, c'est le cycle de la vie. Parce qu'une semence, on la plante. Et lorsqu'on récupère d'un légume, dans le fruit, la graine, ou qu'on laisse monter en graine un légume et qu'on récupère la graine, on le replante et ça redonne un cycle. Et en fait, nous, quand on a découvert que l'agriculture conventionnelle elle avait cassé ce cycle, ben, ça nous a profondément choqués. Et on a voulu s'intéresser un peu plus en profondeur, et notamment avec la websérie Jardin. Levez-vous, on est allé à la rencontre de ces acteurs sur le terrain, donc des jardiniers, des collectionneurs de biodiversité, des associations de reproduction de semences, et pour découvrir qu'il y avait tout un écosystème de gens qui avaient compris l'enjeu et qui se fédéraient pour justement lutter contre ces règles assez absurdes.
Alors Jonathan, rappelons les faits. Tout démarre en 1932, si j'ai bien travaillé mon sujet. La France crée le catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que ça se complique.
Exactement.
Ou que l'étau se resserre.
En fait, pour resituer le contexte que vous faites très bien, c'est qu'on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et donc il faut nourrir, les Français. Et donc très vite, on rentre dans une logique d'industrialisation avec en plus ce que dit Ananda dans l'extrait que vous avez diffusé, une industrie militaire qui devient une industrie faite pour l'agriculture. On recycle les chars et les tanks pour en faire des tracteurs. On utilise les produits qui étaient des poisons qu'on met ensuite dans nos champs.
Et alors habituellement, dans cette émission, on est plutôt pro-recyclage, mais c'est vrai que là, c'est un peu limite.
En fait, on a fait d'une profession très familiale jusqu'alors, une industrie très, très dure et basée sur un modèle guerrier. Mais qu'il y avait... On peut justifier, d'ailleurs, les gens le justifient en expliquant qu'il y a cette nécessité-là. Et c'est aussi l'apparition des grandes surfaces, de ces villes, en fait, qui se créent, qui se concentrent. Donc, voilà, il y a toute une problématique qui se met en place à laquelle on doit répondre, parce qu'on est dans un cas d'urgence, mais cette urgence se cesse assez rapidement. C'est-à-dire que dans les années 60, je pense que, voilà, la France s'est stabilisée et on peut revenir vers une agriculture plus cohérente, plus traditionnelle. Sauf qu'on n'a jamais emprunté ce virage-là, et en fait c'est même pire parce qu'on a durci la législation avec les normes qu'on a imposées pour les semences, à savoir les normes DHS pour distinction, homogénéité, stabilité, qui demandent en fait aux graines d'être proprement contre nature et d'être des clones en réalité, ce qui n'est pas possible de faire naturellement.
Voilà, et donc il y a des critères qui sont extrêmement techniques pour pouvoir inscrire des graines au catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Donc il y a en effet ce que vous disiez, une série de tests pour les rendre homologués et qui sont impossibles pour les paysans. En fait, ils peuvent absolument pas dire, ben moi j'ai l'habitude d'utiliser cette graine, je sais pas moi, de courge ou de blé, donc je vais l'inscrire parce que c'est très compliqué techniquement et en plus ça coûte très cher.
C'est vrai que c'est coûteux et en plus donc ces critères sont industriels et donc les semences naturelles, traditionnelles, paysannes ne rentrent pas dans cette grille, dans ces critères-là. Et donc voilà, c'est ça l'absurdité de la réglementation dont on parlait.
Alors quand je dis cher, je crois qu'une inscription ça avoisine 4000 euros pour une plante potagère et 10 000 euros pour une céréale. Donc forcément c'est dissuasif.
C'est dissuasif surtout pour des paysans et en plus d'ailleurs ce sont les semenciers, s'il faut être entreprise semencier pour inscrire ça au catalogue. Donc voilà, en fait on a séparé les deux métiers d'agriculteur et de semencier et en plus les semenciers, il n'y a que les semenciers industriels qui peuvent inscrire au catalogue ces semences.
Il faut savoir qu'auparavant, chaque agriculteur travaillait ses semences. Ça crée justement une très grande diversité en France. On a la chance d'avoir connu des milliers de variétés de tomates. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main, ces variétés-là. Et le fait d'avoir voulu créer une profession à part entière qui se dissocie du métier de paysan, parce que le paysan, c'est celui qui travaille la terre. Aujourd'hui, on parle d'exploitant agricole, c'est pour dire comment on s'est éloigné de ce lien au terroir. Et donc, ça a amené en fait à ce qu'on concentre ces variétés pour rechercher des critères de productivité absolue au détriment d'une réelle diversité qui est aussi une diversité culturelle et de patrimoine génétique. Voilà.
Extrêmement important, on va en reparler dans un instant. Et puis l'autre conséquence, c'est évidemment le règne de la chimie, puisque je le disais, hein, ces graines sont vendues avec le kit produits phytosanitaires. C'est un système économique qui emprisonne et qui rend complètement le paysan dépendant. Alexandre.
Oui, donc il y a deux choses. Donc, ce catalogue, il amène une érosion de la biodiversité cultivée, on vient de l'évoquer. Et la deuxième chose, c'est puisque ces graines ne sont pas reproductibles, l'agriculteur rachète chaque année ses graines au semencier et donc devient dépendant. Donc voilà, c'est deux conséquences néfastes de cette mise en place du marché.
Et votre documentaire s'intéresse aussi à la perte d'autonomie pour les paysans, qui est très importante. Les conséquences financières sont très lourdes.
Tout à fait, ouais. C'est ce que dit Alexandre, c'est qu'on a à la fois cette perte très importante de biodiversité. C'est les Nations Unies qui estimaient en un siècle qu'on avait perdu 75% de nos variétés potagères. Il me semble qu'en France, depuis 1954, le GNIS, qui est l'organisme qui crée le catalogue pour les semences autorisées, on a découvert que pour les variétés potagères, on avait perdu 80% en France, en 60 ans. C'est énorme, en fait, c'est hallucinant.
Et sur l'aspect financier ?
Et sur l'aspect financier, c'est clair que ça crée une réelle dépendance. Nous, on s'intéresse beaucoup aux questions d'autonomie avec Alexandre, et là, on est complètement à l'opposé de cela. Donc voilà, on est dépossédé en tant que paysan et de fait aussi nous-mêmes en tant que consommateurs.
Alors votre documentaire s'intéresse à la situation française, mais la privatisation des semences est un phénomène mondial. C'est devenu un combat d'ailleurs pour de nombreux groupements de paysans africains, comme nous l'explique tour à tour Omer Agoligan, président de l'Organisation des Ruraux pour une agriculture durable au Bénin, Jacques Nametougli, président du projet CS2A Agrobio Savane au Togo, et Aliou Ndiaye, coordinateur de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes.
La biodiversité, c'est tout ce qui est autour de nous et qui soit naturel et tout ça. Mais ce qui nous concerne principalement par rapport à la biodiversité, à l'agro-biodiversité, ce sont les semences paysannes, même les arbres sauvages que les populations peuvent consommer, peuvent se soigner avec, tout ça. Nous, on met tout ça là dans la biodiversité. Tout ce qui n'a pas été manipulé par la recherche agricole et tout ça, ça nous concerne. Nous, on appelle ça la biodiversité.
Moi, je suis un petit paysan qui encadre aussi des petits paysans plus que moi. Aujourd'hui, nous parlons des semences certifiées. Ces semences certifiées, pour le moment, ce n'est pas les OGM. Mais il y a les OGM qui vont pénétrer. Et qu'un jour, le petit paysan ne peut pas produire son propre semence. Dès que le petit paysan ne peut pas produire son propre semence, il est devenu prisonnier.
Un paysan qui n'a pas de semence est un paysan pauvre. Voilà.
Ces témoignages sont extraits du webdoc à la recherche des semences perdues de Marco Boscolo, Giordano Cossu et Elisabetta Tola, produit par RFI. Alors Jonathan Attias et Alexandre Lombroso, vous qui avez réalisé un documentaire sur le problème donc de la privatisation des semences et leurs conséquences en France, est-ce que vous faites des liens entre ce que viennent de dire ces agriculteurs africains et ceux que vous avez rencontrés en France? Là on entendait voilà, un paysan qui n'a pas de semences, c'est un paysan pauvre, Jonathan?
En fait, là, on touche à des thématiques qui sont mondiales, qui dépassent le cadre de la France, qui dépassent même le cadre de l'Europe. C'est qu'on a des grosses fermes semencières. On connaît beaucoup Monsanto, mais aussi d'autres comme Beaumont ou Syngenta, qui s'implantent et qui cherchent de plus en plus à s'implanter dans des pays dits en voie de développement. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un énorme potentiel. On l'a vu notamment avec l'Inde et le massacre qu'ils font, en fait, actuellement, où ils surendettent les paysans. Parce qu'il faut bien comprendre que pendant longtemps, et le modèle de la France était le même, en fait. C'est qu'on était dans un modèle très familial et d'un seul coup ils incitent les personnes à développer leur exploitation en souscrivant à des crédits et en parallèle font du pression, font un lobbying auprès des instances nationales pour privatiser ce vivant. Et en fait, on est tous confrontés aujourd'hui aux mêmes problématiques. Simplement, la différence qu'on a par rapport à ces firmes mondialisées, c'est que nous, on peut agir qu'au niveau national ou au niveau européen, mais on n'a pas la possibilité de se fédérer sur un plan plus global.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Nous parlons de la privatisation du marché des semences agricoles qui empêche les paysans de reproduire leurs semences d'une année sur l'autre ou de se les échanger avec Jonathan Attias et Alexandre Lombroso qui viennent de sortir un documentaire sur ce sujet, des clics de conscience. Cette privatisation des semences a aussi entraîné une forte baisse du nombre de variétés cultivées. On en parlait tout à l'heure, selon un rapport de l'ONG canadienne de défense de la biodiversité, ETC Group, à l'échelle mondiale, il n'y a que 80 000 variétés de semences certifiées, alors qu'il existerait plus de 2 millions de semences paysannes. Une spirale dans laquelle l'Éthiopie a refusé de rentrer. Après la famine du milieu des années 80, qui a fait plus d'un million de morts, le gouvernement a réalisé qu'une banque de semences centrale, reliée à des banques régionales, était la meilleure solution pour faire face aux aléas climatiques.
Les graines sont collectées à différents endroits du pays. Voici la pièce où les graines sont nettoyées pour les séparer des éléments étrangers. Nos travailleuses utilisent un outil local pour faire ce travail. Nous déterminons le statut de conservation des graines pour chaque échantillon. Ensuite, nous les comptons en utilisant cette machine de comptage de graines. Après les avoir comptées, nous devons peser 100 graines à l'aide d'une balance. Alors voici la pièce où les graines sont séchées. Les graines destinées au stockage à long terme sont apportées et séchées ici. Chaque échantillon est divisé en 8 portions grâce à cette machine. 5 d'entre elles sont destinées à ce que l'on appelle la collection active. Elles sont entreposées ici et sont scellées. Les 3 portions restantes sont placées dans une enveloppe en aluminium que nous appelons notre collection de base. Nous distribuons les graines de la collection active aux intéressés qui en ont besoin, que ce soit pour de la recherche ou pour les cultiver. Nous ne touchons jamais à la collection de base, car nous devons les garder pour les générations futures. Ceci est la salle dite d'attente, où les graines sont conservées à court terme. Elles sont conservées dans des sacs en papier. Dans 5 ans, nous espérons pouvoir multiplier leur nombre dans les champs de façon à obtenir une quantité suffisante de graines.
Cette visite de la Banque centrale de semences éthiopienne est extraite du webdoc à la recherche des semences perdues, produit par RFI. Jonathan Attias et Alexandre Lombroso, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? C'est formidable, cette banque en Éthiopie, Alexandre.
Bah moi, c'est vraiment le type d'initiative, j'espère qu'elles vont se ressemer partout sur Terre, parce que la semence, elle est à l'origine de l'humanité. Et donc, en fait, ce sont les humains qui ont permis d'obtenir autant de variétés, cette grande diversité, ce sont les humains. Et donc, finalement, l'industrialisation a réduit ces variétés, mais nous sommes à l'origine de cette grande biodiversité. Et donc, quand les humains savent qu'ils sont à l'origine de cela et qu'ils vont, vont rencontrer des problèmes avec le changement climatique, en fait, ces semences-là sont des ressources pour l'avenir, parce qu'elles s'adaptent mieux aux aléas des changements climatiques, parce qu'elles ont un patrimoine génétique plus large et elles sont capables de s'adapter plus facilement à toutes les intempéries.
Jonathan ?
En fait, on parle de banque de conservation et on a beaucoup entendu parler d'une banque qui était en Norvège, justement, qui avait vocation à devenir un peu cet arche de Noé moderne.
Et, ouais, alors là, la logique est complètement différente.
Tout à fait, oui. Donc,
vous pouvez rappeler la logique ?
Alors, la logique de cette banque de conservation, c'est en fait de reprendre le patrimoine génétique de ces semences-là pour en créer de nouvelles. Parce que ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est qu'une graine, elle a besoin de s'adapter à son sol, à un environnement, et de fait, elle a besoin d'être plantée d'année en année. Et ce qui se passe avec ce webdoc que vous avez fait, c'est très juste, c'est qu'on a besoin de les propager, de les disperser, on ne peut pas concentrer ce modèle-là.
C'est-à-dire qu'une graine sans son écosystème n'a aucun sens en termes d'évolution, en fait.
C'est exactement ça. Et donc en France, nous aussi, on a des associations qui font un travail remarquable là-dessus. Je pense notamment à l'association Cocopelli qui demande aux jardiniers de préserver des semences pour qu'ensuite ils les renvoient à d'autres personnes. Et donc on a nécessairement besoin que chacun puisse s'impliquer. Et l'avantage d'une implication comme celle-ci, c'est qu'en plus elle est conviviale, elle est chaleureuse. On met les mains dans le sol, on met les mains dans la terre et on fait un peu tous notre part dans ces cas-là.
Alors en plus, la France est un pays de jardiniers. Hein. Je crois qu'il y a 17 millions de jardiniers en France. Mais là, il n'y a pas d'entrave réglementaire. On peut s'échanger les graines entre citoyens jardiniers. C'est pas du tout la même chose que pour les agriculteurs.
Exactement. En fait, si on a commencé par faire notre web-série Jardinier, levez-vous avec Alexandre, c'est qu'on s'est aperçu que la seule catégorie de personnes pouvant cultiver librement toutes les semences paysannes, les semences traditionnelles, c'était les jardiniers. Parce qu'ils sortaient en fait de ce cadre, parce qu'ils ne vendaient pas, en fait, tout simplement, ces légumes-là. Donc, personne, ils ne dérangent personne et on les laisse préserver ces semences. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'est génial de pouvoir les préserver, mais on ne peut pas espérer que ce soit des jardiniers qui assurent un certain rendement en termes de semences, rendement dont ont besoin les maraîchers. Donc nous, notre démarche qui a suivi la série Jardinier, levez-vous, elle a été de se dire en fait directement, faisons en sorte que les agriculteurs disposent de ces mêmes droits, de pouvoir les semer librement et de pouvoir se les échanger à leur tour. Et je pense que voilà, c'est ainsi qu'en se réconciliant entre jardiniers, entre paysans, en faisant ce travail collectivement, qu'on arrivera à faire vivre ce patrimoine.
Alors face à ce constat, vous le disiez, vous êtes mobilisé. Alors vous avez partiellement, je dis bien partiellement, obtenu gain de cause à l'échelle française en tout cas. Donc restez avec nous sur RFI, nous parlons de votre combat et de ses avancées juste après le flash d'info. À tout de suite. Take off.